France Culture, les matins du samedi, Caroline Bombay.
Chère Natacha, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors beaucoup des journaux de ce matin continuent de commenter les annonces présidentielles de jeudi soir. Petit tour d'horizon des éditorialistes de la presse nationale et régionale.
Ce qui fait grincer le Figaro ce matin, c'est la dépense publique. Pour Yves Tréhard, nombre de nos difficultés viennent de là, de cette incapacité à dépenser moins mais mieux. En somme, une tradition française. Selon Jean-Michel Brutonnier dans La Voix du Nord, quand le président dit vouloir reconstruire l'art d'être français, c'est aux conservateurs qu'il s'adresse. Pour l'éditorialiste, voici une opération de séduction auprès des électeurs de droite. À l'inverse, pour Xavier Brouet du Républicain Lorrain, Macron maintient son cap, mais il marque une inflexion sociale. Surtout pour régler l'ardoise, il lorgne sur les niches fiscales des entreprises. Mais ce qui ressort le plus, ce sont les insuffisances des mesures annoncées. Elles ne répondent pas aux attentes des Gilets jaunes. Jean-Marcel Bourguereau, de la République des Pyrénées, regrette le flou de son engagement sur l'écologie. Si Charente Libre le voit en patron paternaliste, si l'éclair des Pyrénées voit Jupiter toujours, pour Le Monde, la posture présidentielle a changé. Citoyens, élus et partenaires sociaux sont désormais impliqués. Changement de méthode, le chef d'État a choisi de déléguer. Emmanuel Macron a mesuré le risque de concentrer sur sa personne la totalité du pouvoir.
Par ailleurs, cette semaine, Hebdo et Revue se sont intéressés à l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, mais aussi à ses hommes d'influence.
Ah, et on commence avec l'enquête dans Vanity Fair. Macron et Sarkozy, les dessous d'une étrange amitié. Le magazine rapporte que cet hiver, l'ancien président lui suggérait des noms pour les grands ministères. Malgré ses turpitudes judiciaires, je cite, « Sarkozy reste la figure la plus populaire de la droite ». Conseiller de l'ombre, stratégie politique, diviser la droite pour mieux régner, le doute plane sur les raisons de leur proximité. Pour Le Point, cette semaine, le nouveau cerveau d'Emmanuel Macron, c'est Jean-Michel Blanquer. Dans son long entretien, le ministre de l'Éducation dit vouloir renouer avec une méritocratie réelle. Selon Le Point, ce sont ses idées à lui qui ont influencé la sortie de crise des Gilets jaunes. Le ministre confirme. L'éducation est le thème qui est à la base d'une réflexion et d'une politique sur l'égalité des chances. De facto, cela me positionne en première ligne. Le politiste Vincent Martini, interviewé dans Society, lui pense différemment. Selon lui, le président est à l'image des autres chefs d'État du monde, qu'ils soient populistes ou libéraux, tous incarnent la figure du chef qui décide seul. L'hyper-présidentialisation a affaibli le pouvoir du Premier ministre. Il écrit « Qu'est-ce qui fait la crise de la démocratie ? La solitude du prince qui gouverne sans contre-pouvoir, sans collectif organisé. »
Vincent Martini qui sera l'invité de la grande table la semaine prochaine. Juste une réaction à ce sujet sur l'hyper-présidentialisation. Jean-Pierre Mignard.
Elle est dans les gènes de la Ve République. Voilà. Ça, franchement, bien alors, quel est le fondateur de la Ve République? C'est le général de Gaulle, personnage iconique, mérité, sans doute, pour bien des aspects. Mais c'est une constitution qui, n'oublions pas, est née dans la guerre civile, au bord de la guerre civile, les putschs militaires, la fin de la guerre coloniale, des régimes qui étaient sur le point de tomber. Il faut bien voir que lorsque le général de Gaulle est ramené aux affaires, l'armée bouge. On dit d'ailleurs que même à Rambouillet, l'armée est prête. Des parlementaires se réfugient à l'Assemblée nationale. C'est dans ces conditions-là quand même.
Et c'est un ancien gaulliste qui parle.
Oui, bien sûr. Mais
c'était jeune gaulliste
oui,
dans ces années-là.
Gaulliste.
Alors, on célèbre d'ailleurs le 50e anniversaire de sa démission demain.
Et heureusement que le général fut républicain. Nous aurions pu avoir Salazar. C'était le choix d'ailleurs qui était posé à la France à l'époque. C'était Salazar ou De Gaulle. Voilà, effectivement, dans tous les cas, De Gaulle. Nous n'avons pas beaucoup progressé depuis, même si la société a énormément avancé. Général, d'ailleurs, est parti à la suite d'un référendum où il l'avait perdu. Nous avons eu mai 68, la plus grande grève générale de l'histoire du monde, quand même. Ça, c'est quand même ouvrière, c'est quand même très important. Et on a une société qui s'est beaucoup, beaucoup libérée, qui s'est quelquefois individualisée, qui est quelquefois devenue égoïste. L'individualisme, je suis pour. Je suis sur ce point un démocrate libéral. Mais la contrepartie, c'est l'altruisme. Nous avons perdu en altruisme ce que nous avons gagné en individualisme. Or, je pense que l'altruisme, c'est fondamental. Et la délibération citoyenne. Alors là, il y a quelques progrès. Moi, j'aurais été, par exemple, favorable à ce qu'il y ait des assemblées citoyennes dans toutes les régions qui soient systématiquement pressentis pour donner leur avis avant une délibération et que leur avis soit discuté.
Bon, ça n'a pas été retenu.
Voilà. Mais non, mais les sociétés, ça progresse de manière chaotique, mais il le faut. Mais si les citoyens ne sont pas plus responsables, si on ne donne pas plus de responsabilités, si les gens ne sortent pas de leur cocon, c'est-à-dire s'ils ne sont pas plus rassurés, parce que les gens ne sortent de leur cocon que lorsqu'ils sont rassurés, nous aurons effectivement toujours des systèmes hyper-présidentiels, les grenouilles qui demandent un roi, La Fontaine a tout écrit là-dessus.
Allez, on termine votre revue de presse, Natacha. À quelques semaines des scrutins des européennes, deux dossiers s'intéressent à l'Europe. Le magazine économique Capital, tout d'abord, titré « L'Europe nous irrite, mais que serait-on sans elle ?»
Oui, elle n'est source d'espoir que pour 29% des Français. Pourtant, l'Union est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis. Capital, le magazine, donc détricote quelques préjugés. Sans l'Union européenne, nos entreprises seraient beaucoup moins performantes, nous dit André-Luc Molinier du MEDEF. Ou comment le libre-échange et la monnaie unique sont des bénédictions pour l'économie. Dans son nouveau numéro, Philosophie Magazine s'intéresse, lui, à l'esprit européen. Dans ce dossier très riche, là aussi, on fait le constat d'un désaveu. Tout se passe comme si l'UE apparaissait au peuple comme un projet évidé, un dispositif administratif, un puissant levier d'action pour les lobbies, mais pas comme une force authentique politique. La construction européenne souffre d'un déficit symbolique. Dans un premier temps, des penseurs tentent de répondre à une question, la question, qu'est-ce qu'être européen ? Pour la philosophe Barbara Cassin, ce qui est très marqué en Europe, c'est le multilinguisme. Ce sont des différences culturelles creusées comme telles et sans cesse réinventées. C'est pourquoi, malgré la mondialisation, l'Europe résiste à l'hégémonie du global English. Et si précisément l'esprit européen se caractérisait par l'art d'entretenir la contradiction ? Chaque fois qu'elle a produit une idéologie, l'Union a aussitôt construit et diffusé son contrepoint. Catholicisme contre protestantisme, lumière contre romantisme, libéralisme contre marxisme. Alors pour finir, je cite, « Les prochaines élections européennes risquent d'aboutir à un paradoxe. Un Parlement européen où siégeront des députés anti-européens. Cette crise politique actuelle n'est peut-être qu'un nouvel avatar de cet esprit de perpétuelle autocontradiction, et si c'était aussi le gage d'une certaine vitalité. »